Ça va?
Oh.
Tant mieux. On va continuer et j'aimerais juste prendre un temps pour prier et on continuera ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité et cette vérité, elle nous rend libres. Parce qu'on va mieux connaître qui tu es, ce que tu veux et cela pour mieux vivre. Seigneur, merci parce que tu nous parles, tu continues à te révéler à nous. Et Seigneur, que ce matin, nous puissions encore plus comprendre ta parole, plus comprendre de toi et aussi du coup ce que cela implique dans nos vies. Seigneur, sois béni et que tu sois glorifié. Amen. Oui. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Non, c'est pas le temple de Salomon, mais pas loin. Alors, pour comprendre déjà que c'est pas le temple de Salomon, ici là, ça n'existait pas sur le temple de Salomon. Mais par contre, ceci c'est le temple que Hérode a fabriqué pour les Juifs. Donc en fait, c'est le temple dans les évangiles. Quand on parle du temple dans les évangiles, c'est ce temple-là. Pour petite information, en gros, il y en a un, c'est pour les femmes. Les femmes ont le droit et l'autre, les femmes n'ont pas le droit. J'ai appris ça et je me suis dit, ah bon, ok. Dans ce temple, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'on l'a tous lu. Mais c'est tellement rapide qu'au fait, est-ce qu'on a réalisé vraiment la portée ? Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu 27, versets 50 à 51. Alors, ça ne sera pas projeté. Donc, si vous avez votre Bible, c'est le mieux. Donc, Matthieu 27, 50 à 51. Jésus est sur la croix. Il vit ses dernières secondes. C'est marqué donc dans Matthieu 27, 50 à 51. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, etc. etc. Le voile, au même instant, le voile du temple, de ce temple, s'est déchiré de haut en bas. Comme quand on déchire du papier. Pour comprendre la portée de ce petit passage, il faut revenir vraiment en arrière, au temps du tabernacle. Le tabernacle, il y a le parvis, qu'on entend beaucoup, hein, quand on lit par exemple les psaumes, ils parlent beaucoup du parvis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, le parvis, ça a pas... tout le monde pouvait y aller. Il y avait des règles, mais tout le monde pouvait y aller. Ils passaient par cette porte-là, ils faisaient leurs sacrifices, etc. là. Et il y a aussi le tabernacle proprement dit, cette tente, qui s'appelle d'ailleurs aussi tente de la rencontre. C'est important de bien rappeler ça, tente de la rencontre, parce que pour la suite, il faut que ça rentre, parce que c'est important. Dans ce tabernacle proprement dit, c'est divisé en deux. Il y a le lieu saint où tous les prêtres pouvaient, après avoir fait leur purification, etc., pouvaient exercer, donc pouvaient se rendre là pour faire leur service. Et il y avait le lieu très saint où il y avait l'arche de l'Alliance, où, dans lequel il y avait les tables de la loi, entre autres. Il y avait aussi de la manne et il y avait le bâton de Aaron, qui avait fleuri d'ailleurs. Et au fait, dans ce lieu très saint, c'est le lieu de la présence même de Dieu. En gros, c'est son trône, c'est représenté. Et là, par contre, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y aller, c'était le grand souverain sacrificateur qui pouvait y aller, et c'était une seule fois par an pour le pardon des péchés de tout le peuple. Et et aussi du coup pour le sien. Il versait du sang là, et il faisait son petit rite. Quoi, le petit rite ? Il faisait un rite. Et il venait donc une seule fois par an. Et entre les deux, il y a un rideau. Ce voile-là, c'est dans notre temple, il est là, beaucoup plus grand. Donc vous vous imaginez qu'il s'est déchiré de haut en bas. Ça montre bien la main de Dieu dans cette action-là. Et pour comprendre pourquoi il y avait ce voile-là, en fait, ce voile avait, comment dire ça, c'était un symbole qui montre une réalité claire. Ce rideau montre, d'un côté, nous avons un Dieu qui est saint, un Dieu qui est sans péché. Le péché n'a même pas de trace sur lui, et il en a en horreur. Il ne le côtoie pas. C'est un Dieu qui est parfait. Et en même temps, c'est un Dieu qui est plein d'amour, qui a envie d'être avec son peuple, qui a envie d'être dans sa présence, d'être au milieu de son peuple. C'est un Dieu de relation, c'est un Dieu qui va à la rencontre, un Dieu d'amour, réellement. Mais ce voile montre une autre réalité, c'est que ben, y a nous. Or, l'homme, après le péché de Adam et Ève, ça nous touche tous, c'est que cette réalité, c'est que nous sommes pécheurs. Le péché est en nous, nous sommes pécheurs de naissance. On est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas péché. Et n'oubliez pas, on a un Dieu saint. Et le péché met une séparation entre Dieu et nous. Donc ce voile montre en même temps au peuple, nous montre qu'on peut s'approcher de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait tous les sacrifices, toutes les purifications, vous lisez dans l'Ancien Testament et vous allez vite voir. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur comme ça, à cause de notre état de pécheur, justement. Et on peut lire ça dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, qui dit « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Voilà la réalité. Voilà l'importance de ce voile. Ce voile montre que finalement, il y a une séparation. On ne peut pas être accès direct avec le Seigneur. Mais n'oublions pas, nous avons lu Matthieu 27, et qu'est-ce qui s'est passé ? Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et ça, une première des choses, si c'est à cause de nos fautes, à cause des péchés que nous sommes séparés, en fait, le fait que le voile s'est séparé, ça montre que premièrement, nos fautes ont été pardonnées. Et ça, nous allons lire dans Hébreux 10, versets 19 à 22. Ce passage nous montre cette réalité-là. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus était pour nous pardonner les péchés. C'était primordial. On ne peut pas être dans la présence de Dieu si d'abord le salaire n'avait pas été payé. Or, peut-être vous ne savez pas, mais le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que Jésus meure. C'était obligé. Il fallait que quelqu'un de parfait, et qui d'autre que Dieu lui-même. Et c'était important pour cela. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous pouvons rentrer. Dans Hébreux 9, versets 11 à 12, il est écrit « Or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. » Jésus, c'est à la fois le grand sacrificateur et en même temps le sacrifice. C'était ce qu'il fallait obligatoirement. C'était pour le pardon de nos fautes. Donc, ce voile déchiré montre déjà une chose, c'est que nos fautes sont pardonnées en Jésus-Christ. Et Jésus le dit lui-même, et je vois des coupes, etc., qui nous rappellent aussi la scène, dans Matthieu 26. « Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. » Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. À la fois, il y a le péché qui est pardonné et en même temps, comme j'ai dit, hein, c'est comme quand on déchire le voile déchiré, c'est comme on déchire un contrat. L'ancienne alliance est déchirée, il y a une nouvelle alliance qui est faite. L'autre conséquence, et pas la moindre, c'est que si ce voile est déchiré, c'est-à-dire que maintenant, nous avons accès au lieu très saint. On aime bien chanter les psaumes, et à juste titre, où on parle « Ah, qu'est-ce que c'est bien d'être dans ton parvis !» Mais ne restons pas dans le parvis. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être dans le lieu très saint. C'est-à-dire dans sa présence même, dans une présence de relation. Dieu veut une relation avec lui. Ce rideau qui est déchiré, justement, nous permet d'être dans cette présence même. Et la croix, ce que Jésus a fait, justement, ça nous donne cet accès. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux être auprès du Père, il n'y a pas 1000 chemins. Un seul, c'est Jésus-Christ, par la foi. Tu n'as rien à faire à part de croire et de vivre en conséquence. Il nous a ouvert ce chemin pour être dans la proximité du Père. Si tu prends le ministère de Jésus, lis tous les évangiles, tu vas réaliser que en fait, la vie de Jésus avait pour objectif d'amener les gens vers le Père. Il a toujours recentré les choses vers le Père. C'était sa mission. Dans Hébreux 10, celle qu'on a lue au verset 22, c'est marqué « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et dans Hébreux 4, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Il n'y a pas d'autre médiateur à part Jésus-Christ. Si tu cherches d'autres médiateurs pour parler avec ton Père céleste, c'est que déjà tu t'es trompé. Le seul moyen pour accéder au Père, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Et cette relation avec le Père dit quoi? Ça veut dire que si tu acceptes Christ, si tu de suivre Christ, ça veut dire aussi que tu es son enfant. Ah oui, si c'est le Père, ça veut dire que t'es un enfant. Et c'est important de bien comprendre ça. J'ai accès à mon papa. Je peux lui parler. Je peux lui communiquer ce que j'ai sur le cœur. C'est un Dieu de relation. C'est un Dieu, les rites, toutes les choses qu'on pourrait imaginer, ah, je dois faire comme ça, parce que comme ça, je vais pouvoir mieux faire. Dieu n'est pas dans ce truc-là. Il y a des passages dans la Bible qui disent « j'en ai rien à... » Pardon, c'est un français très, très populaire, mais en gros, c'est « j'en ai rien à faire, désolé, mais j'en ai rien à faire de vos sacrifices, parce que votre cœur n'y est pas. » Dieu, c'est un cœur à cœur, c'est une relation, vraiment. Dieu désire une relation vraie. Et ce voile déchiré nous amène justement à pouvoir aller vers ce Dieu-là. Ce Dieu qui est un Dieu de proximité, un Dieu qui se laisse aussi interpeller par nos prières aussi. Il a à cœur. Je suis sûr que si vous avez eu des enfants, ou même si vous n'en avez pas, vous avez sûrement vu autour de vous. On était chez mon grand frère en août, et il a un petit de 4 ans. C'est formidable. Tu l'observes, tu te dis, c'est comme ça que Dieu sûrement veut nous voir. C'est-à-dire que c'est un enfant, il n'avait aucun problème pour appeler son père. Il faisait « papa, papa ». Tant que le père ne répondait pas, il continuait « papa, 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 papa ». Souvent, le père, il disait « attends, tu vois bien que je suis en train de parler ». Mais non, il continuait. Parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Il avait quelque chose à lui partager. Et ce qui est génial à cet âge-là, c'est qu'ils n'ont pas de filtre. Ils ne se disent pas « ah non, je ne vais pas dire ça à mon père parce que ça va l'importuner, il va faire ci. » Ils sont vrais. Si vous écoutez ces enfants, ils sont très nature. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est Jacob, il disait « ah viens, on va à la garderie, il y a plein de ballons. » Et au fait, ils sont vrais, ils se laissent aussi parler par leurs émotions. Ils ne sont pas guidés par leurs émotions, mais ils savent exprimer. Or, j'ai l'impression que nous, adultes, plus on grandit, plus on est coincé. On a du mal à parler avec notre Père Céleste parce qu'on dit « ah non, ça va l'embêter. Au fait, non, est-ce qu'il prendra ça en compte ?» Non, il s'intéresse à toi, à chacun. Parce qu'il... Chacun a de la valeur parce qu'il t'a fait, il t'a voulu. Et il veut une relation avec toi. N'oubliez pas, le temple ou le tabernacle, c'était le temple de la rencontre. Il voulait cette proximité. Et il veut, le nombre de fois, si vous lisez les évangiles, où il parle, soyez comme des enfants. Justement, parlez. Seigneur, voilà, aujourd'hui... j'ai fait ça, je suis super content. J'ai réussi à faire ma première omelette. Ça peut être ça, hein? Des petites choses. Les enfants, ils n'ont aucun problème. Ils viennent avec un dessin qui, pour nous, pourrait représenter un sorte de Picasso bizarre. Mais pour eux, c'est juste génial. Et ils te présentent ça en mode avec fierté. Est-ce que nous, on est fiers de faire même des petites choses et on la présente à notre papa en disant « regarde ce que j'ai fait !» Et notre père, il va dire « je suis fier de toi. » Et il va prendre du temps pour t'encourager. C'est un papa, vous savez, c'est un papa qui prend du temps pour te dire « un, je t'aime. » Tous les jours, il te dit « je t'aime. » Et des fois, j'ai l'impression que nos oreilles ne sont pas à l'écoute de ça. On a tellement été brimés par « t'es nul ». Ce que tu fais, c'est mauvais. Ça, on est doué hein, pour encourager. Hein. Non, Dieu, il te voit, il dit « tu as de la valeur, je t'aime ». Il a toujours cette main tendue. quand tu t'es tombé ou bien t'as glissé dans le péché, il a toujours cette main tendue. Tu peux toujours revenir à lui en demandant pardon. Et il est juste et bon pour te dire « Je te pardonne et on avance ensemble. » C'est un papa qui est, je suis persuadé, qu'il n'aura aucun problème pour me prendre dans ses bras. Alors c'est une image, mais sentir sa présence aussi. C'est un papa qui, comme tout parent, met un cadre pour ses enfants pour qu'ils puissent s'épanouir, n'est-ce pas ? C'est ce que tous parents veulent. Nous, le truc, c'est que on n'est pas parfait, mais lui, il est parfait. Et son cadre, il est parfait. Alors du coup, quand on sort un peu du cadre, ça reste quand même un papa qui va te reprendre avec plus ou moins avec la douceur ou avec plus de sévérité. Mais le but, c'est de te permettre que tu puisses t'épanouir correctement. C'est ce papa qui va savoir t'encourager. C'est ce papa-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu la grâce et je remercie le Seigneur d'avoir eu un papa aimant. Et d'ailleurs, je l'ai toujours et je suis toujours très reconnaissant pour ça. Même s'il est au Mali, un message, il est toujours disponible pour qu'on discute. C'est un papa qui m'a toujours encouragé. C'est un papa qui m'a toujours pris dans ses bras. Bon, c'est parce que nous, on est très tactiles. Ça, c'est notre truc. C'est un papa aussi qui a su dire pardon quand il s'est trompé. C'est un papa qui voyageait beaucoup, mais quand il était là, il prenait du temps avec nous. C'était un papa, oui, il n'est pas parfait, mais il m'a montré des qualités de Dieu à travers sa vie. Et je suis reconnaissant pour ça. Mais je suis conscient aussi qu'il y a des personnes, sûrement ici, qui n'ont pas eu cette grâce-là. Et des fois, ce côté-là, ça bloque dans notre relation avec notre Père céleste. Parce qu'on a une conception du coup du Père qui est mauvaise. Mettez ça de côté. Et découvrez le véritable Père. En lisant, en prenant soin d'être dans cette relation. Parce qu'une relation, c'est quand on se dévoile l'un avec l'autre. Dieu se dévoile à toi. Mais toi, dévoile-toi à lui. Et la relation va se faire et vous allez davantage le connaître. Et ça enlève plein des conceptions dans notre manière de prier, dans notre manière de vivre. Des fois, on a une conception assez animiste, désolé de le dire, de notre relation avec Dieu. Je vais vous dire vite fait. Les animistes, comment ils conçoivent la spiritualité ? Ils croient en un Dieu qui a tout créé, mais c'est un Dieu lointain. Alors pour X raisons, chacun a son petite anecdote. Pour Bénin, par exemple, vous savez, ils pilent et les femmes le font dans une cadence. Et des fois, ils lancent, ils tapent des mains, ils recommencent. Et certains peuples disent, en gros, que Dieu, à ce moment-là, il passait et il s'est pris un pilon dans la tête. Et il a dit, puisque c'est comme ça, ok, moi, je repars. Voilà, ça, c'est une conception. Du coup, pour diriger, il a mis des esprits, les ancêtres. C'est eux qui vont gouverner un peu les choses. Il y a l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, etc. Et pour communiquer avec eux, il a mis des personnes bien particulières, c'est des sorciers ou des marabouts, des gens comme ça. Et c'est toujours dans un lieu un peu particulier. Et en gros, les gens vont le voir, ce sorcier, pour X raisons, soit pour la protection, soit pour avoir un meilleur champ, soit pour attaquer quelqu'un aussi. Il y a toujours cette notion de puissance, de gloire, etc. Et le sorcier va dire, ok, tu dois faire ça, 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 et si tu fais ça, les esprits vont te devoir, du coup, ce que tu voudrais. Mais nous, on a à peu près calqué ça, qu'on le veuille ou non, des fois, c'est comme ça un peu. On a un Dieu le Père, créateur, tout-puissant, mais qui est sur son trône, tranquillement là-haut. Mais il a envoyé Jésus-Christ et il y a son Saint-Esprit. Du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on communique que avec eux. Parce qu'on se dit, si on communique avec eux, eux, ils vont communiquer avec lui. Et il a mis des personnes particulières qui ont plus d'onction. Ça, au Cameroun, on me le disait, « Ah, pasteur, vraiment, toi, tu as plus d'onction que moi. Hein. Il faut que tu pries pour moi, non ?» Parce que quand toi, tu pries, « Pouh !» Vraiment, je leur disais, on a le même esprit, non ? En tout cas, les responsables, et c'est dans un lieu particulier, hein, c'est l'Église, dans un lieu bien précis. Si je ne vais pas à l'Église, je ne vais pas être exaucé. Et le responsable, on vient le consulter pour qu'il te dise qu'est-ce que tu dois faire pour plaire. Et finalement, que le Saint-Esprit ou Jésus-Christ va te devoir. Ça, c'est comme ça que fonctionnent certains. Peut-être certains vont connaître un peu mieux que moi, mais par exemple, dans la religion catholique, la place de Marie a un rôle d'intermédiaire. On passe par Marie pour qu'elle parle à Jésus, pour que Jésus parle au Père. Les ricochets. Alors que la Bible nous dit que nous avons un Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a nous. Quand on accepte Christ, dans le sens où on veut vivre avec lui, le Saint-Esprit rentre en nous. Il est en nous. Et le Saint-Esprit nous dit, tu es enfant de Dieu, tu es racheté, tu es aimé du Père. Et nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et le Christ, le Père, nous voit à travers Jésus. Et du coup, ben maintenant, je peux parler directement à mon Père. Je n'ai pas besoin de passer par X personnes. Les responsables d'église ont leur responsabilité. Mais dans ma relation intime, je peux parler directement avec mon Père. Et n'importe où, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans la rue, que ce soit en train de faire la vaisselle, en train de sortir les poubelles, partout. C'est ça qui est génial. Et en plus, c'est mieux que la fibre. On a essayé limité et gratuit. Et des fois, on ne veut pas l'utiliser. C'est bête, hein ? On a quelque chose qui est gratuit, on cherche ça, mais quand on l'a, on ne l'utilise pas. Et ça change aussi sur, ben finalement, je vais faire ça pour que Dieu va me devoir ça. Il n'y a pas de ça. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons. Hein. Je lui mets ma pièce et puis voilà. Non, non, n'oublions pas. Relation. Et du coup, ça nous amène à une relation de confiance, une relation d'obéissance, une relation, oui, ah, c'est un mot qu'on n'aime pas en général, mais de soumission. Eh oui, c'est notre Père. Du coup, on doit l'aimer en tant que Père et de vivre en conséquence. Je vais œuvrer du coup pour lui, pour le rendre glorieux, pour, en fait, je vais vivre pour lui. Et ça change complètement tout. Alors, j'aimerais vous laisser quelques questions. On a vu que maintenant, le voile est déchiré, que j'ai accès au lieu très saint. Je ne veux plus être dans le parvis simplement. Je veux être dans le lieu très saint, dans cette relation, cette proximité avec le Seigneur. Que ça, c'est grâce au sang de Jésus-Christ qui nous a ouvert le chemin. C'est le seul médiateur entre lui, entre le Père et moi. C'est par lui que je passe. C'est en gros notre passe salutaire. C'est pas sanitaire, mais salutaire. Et voilà trois questions que j'aimerais vous laisser par rapport à ce qu'on a entendu. La première chose que j'aimerais que vous vous posiez comme question, c'est finalement, qu'est-ce qui vous bloque dans votre relation avec le Père ? Parce qu'on a des choses qui nous bloquent. Peut-être on peut se dire, j'ai déçu tellement de fois mon Père, c'est pas possible, il ne peut pas me pardonner ou bien il m'aime plus. Mauvaise réponse. C'est marqué, il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il est juste et bon pour te pardonner. Tu peux venir à lui, lui dire pardon, sincèrement, et il va te pardonner. Donc si c'était ça, la conception du Père, hein, aussi comme j'ai dit. Donc qu'est-ce qui te bloque? Quelles sont les conceptions que tu as qui te bloquent dans ta relation avec le Père? L'autre chose, c'est de quelle manière pourrais-tu développer cette proximité, cette relation nouvelle avec lui? Jésus, par exemple, lui prenait vraiment du temps, malgré tout son ministère qui était pas mal blindé, mais il avait des temps bien précis de prière avec le Père. Daniel prenait du temps, il avait une discipline pour prendre du temps pour prier. Toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place? De quelle manière tu vas pouvoir développer cette proximité? Et enfin, si ça reste que des réflexions, ça n'a pas de sens, c'est qu'est-ce que tu vas décider maintenant pour développer une relation libre, saine et profonde avec ton Seigneur, ton Père? Tu as de la valeur. Dieu t'aime et il t'a donné cet accès. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est juste génial, non? Le voile est déchiré. On prie ensemble? Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce de pouvoir venir à toi. Merci pour cette proximité, merci pour cette relation qu'on peut avoir avec toi. Tu es ce Dieu plein d'amour, qui est saint, qui nous met ce cadre dans lequel on va pouvoir aussi expérimenter cette liberté. Tu es ce papa qui va nous reprendre. C'est ce papa qui sait écouter, qui prend du temps pour nous écouter. Et Seigneur, merci pour ça. Merci pour Jésus-Christ qui a payé à la croix. Merci pour ce chemin qui est maintenant pour nous et cette proximité. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous ici afin que nous puissions vivre pleinement cette liberté, cette grâce que tu nous as accordée. Qu'on puisse le vivre personnellement, mais aussi tous ensemble. Seigneur, bénis cette Église et béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen.